La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info, et bienvenue dans un pays qui a enfin un nouveau gouvernement depuis quelques jours. C'est maintenant la composition de l'équipe dirigée par Michel Barnier qui est au centre de tous les débats. Nous allons y revenir avec les trois invités de ce numéro, Marie-Christine Monnoyer, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités, Lucas Duval, militant du Parti radical de gauche, délégué national des jeunes de la LICRA, et enfin Pierre Fournier, membre du Parti Renaissance, référent Haute-Garonne des jeunes avec Macron. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. Alléluia, après une longue attente, la composition du nouveau gouvernement a enfin été annoncée samedi, plus de deux semaines après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Une équipe de 39 ministres et secrétaires d'État, dont 17 dits de plein exercice, œuvre donc désormais aux côtés du Premier ministre. Alors je vais vous poser une question très simple, hein. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de la composition de ce gouvernement et quelles indications donne-t-elle, selon vous, sur les orientations de la politique que souhaite mener Michel Barnier? La parole est à Marie-Christine Monnoyer.
Bonjour d'abord. Personnellement, il m'a semblé que l'important c'était d'abord d'avoir un gouvernement. Que sa nomination et sa constitution s'étaient avérées évidemment très difficiles, eu égard aux enjeux, eu égard à la répartition des places et des voix dans l'Assemblée nationale. Donc l'important, c'est d'avoir un gouvernement. Et au fond, ce qui est intéressant d'attendre, c'est de voir s'il est possible, sur des sujets un peu précis, et on en a un certain nombre en tête, d'arriver à trouver une majorité sur tel ou tel point. C'est un enjeu absolument considérable. Si on n'y arrive pas, et que dans les 15 jours, le mois ou les deux mois qui viennent, le gouvernement saute, cela veut dire qu'on se retrouve exactement dans la même position qu'il y a 3-4 mois, et qu'en plus, on a une expérience négative. Alors, bien sûr, on peut imaginer que si on nomme un nouveau Premier ministre, très différent, les choses pourraient encore être. Mais ce qui me paraît complexe et ce qui est intéressant, c'est de savoir si on va pouvoir s'entendre sur un certain nombre de points. Et ça, c'est quelque part l'avenir de la République qui est en jeu. Alors, pour l'instant, moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on va être capable de se trouver des points d'accord sur un certain nombre de points et d'arrêter de s'envoyer des oripeaux à la figure?
Et vous pensez que la composition de ce gouvernement, justement, peut permettre d'arriver à s'entendre alors qu'on a une Assemblée nationale qui est répartie, comme vous le disiez, de telle façon que dégager une majorité, c'est très compliqué?
Je serais bien ambitieuse si je disais que je pensais que c'était facile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont presque à l'extrême droite, qu'il y a des gens qui sont quand même au centre, et qu'il y a des points et des sujets sur lesquels il y a des possibilités d'accord. Pas forcément ceux qui ont été le plus mis en évidence. Est-ce que on va revoir la réforme des retraites? Est-ce qu'on va revoir la loi sur l'immigration? Est-ce qu'on va s'amuser à revoir les lois sur l'IVG et autres plaisanteries? C'est bien difficile à dire. Mais il y a le budget à voter, et dans le cadre du budget, il y a certains budgets qui sont fondamentaux pour la survie pour la vie des mois et des semaines qui viennent. Si on n'arrive pas à trouver des points d'accord, je ne donne pas cher de notre situation politico-économique et sociale dans les mois qui viennent.
Lucas Duval, alors vous, quand vous avez découvert la composition de ce gouvernement, d'abord, est-ce que ça vous avez été surpris de voir apparaître certains noms? Ou pas plus que ça, et bon, quel signe vous voyez justement dans les nominations de certains et certaines dans certains ministères?
Avant de. Déjà, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de venir dans cette émission. Avant de parler du gouvernement lui-même, j'aimerais quand même revenir sur comment est-ce qu'on en est arrivé là.
À chaque fois, on me fait le même coup.
Non, mais
Allez-y,
c'est une réalité
allez-y.
parce
Oui,
que
oui.
bon, vous le
Et qu'est-ce que ça
savez.
nous apporte de reprendre ce point-là?
Ben, alors justement, moi, ça m'apporte de dire que. Alors, parce que moi, je représente une gauche qui a refusé en 2022 d'aller dans la NUPES, qui a refusé en 2024 d'aller dans le nouveau Front populaire. Et je fais partie de cette gauche qui considère, en tout cas, on est quelques-uns à le considérer, qu'il y a parfois des intérêts qui sont au-delà des intérêts partisans. Et qu'il y a ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation, qu'il y a ce qu'on appelle l'intérêt général. Au-delà du coup de toutes les obédiences qu'on peut représenter. Et à cause du sectarisme de certains à gauche, qui ont de suite refusé de tenter quelque chose avec des gens du centre, des gens modérés, des gens de droite, hein, de droite modérée, et ils ont directement dit non, nous on veut pas. Et donc là où. Quand même, il faut le reconnaître, même si personne n'est sorti gagnant de cette élection législative, il y a quand même eu une coalition dont je ne suis pas d'accord, mais sur la majorité des points, mais qui arrivait avec le plus grand nombre de députés. Eh bien, là où les Français ont quand même voté, du coup, un petit peu plus pour des députés de gauche ou d'extrême gauche, il faut le dire, les filles d'extrême gauche, selon moi,
C'est bien le problème
c'est
d'ailleurs.
bien le problème. Eh bien, on a accouché d'un gouvernement, du gouvernement qui est le plus à droite de la Ve République. Quand on voit des noms comme Retailleau, comme Laurence Garnier, qui disent, alors plus ils parlent, plus je me dis que c'est que je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font chez les Républicains et qu'ils auraient peut-être mieux fait de suivre Éric Ciotti, certains. Retailleau qui Il arrive avec ses grosses chaussures. Il dit, bon, bah alors moi, je ne suis pas d'accord avec les jugements qui sont rendus par la justice. Je trouve qu'on est trop laxiste. Je trouve que certaines lois ne sont pas bonnes. Je trouve que. Et en fait, il empiète sur tous les ministères en étant du coup ministre de l'Intérieur. Et tout en disant, et ça reflète bien quand même sa pensée profonde, quand il a été interrogé, je crois que c'était sur TF1 il y a deux ou trois jours, sur le 20h.
Oui.
Quand Gilles Boulot lui demande est-ce que vous voulez remettre en cause quelque chose comme le mariage pour tous, parce qu'il a été une des têtes de proue de la manif pour tous, eh bien il a dit, et je vais le paraphraser, j'ai plus à ce qu'il a dit exactement en tête, mais quelque chose comme j'ai des convictions, ça ne change pas, mais c'est comme ça a été voté. Ça veut donc dire que cet homme, qui aujourd'hui est ministre de l'Intérieur, assume clairement être lui dans son propre intérieur, dans son fort intérieur, être contre le mariage pour tous, mais bon, ça a été voté, alors c'est comme ça. Bref, et on pourrait citer des
Et en quoi
exemples.
c'est un problème, ça,
Parce que
puisqu'il ne
finalement,
remet pas
là,
en
il
cause.
repère, il joue
Enfin,
un
il a
peu
le
les
droit
démocrates.
d'avoir ses
Ah,
opinions,
et
il me
je
semble.
ne dis pas que ce n'est pas un démocrate. Je dis simplement que les idées, les convictions qui l'animent, sont, en tout cas selon moi, absolument contraires à ce qu'aspirent les Français, déjà d'une, et aussi à ce que les Français ont fait en juillet, à savoir le Front républicain. Si on avait voulu mettre l'extrême droite au pouvoir, on l'aurait mise. Et
Alors,
là, on a des gens qui défendent presque le programme de l'extrême droite, sur certains points même qui le défendent, mais sans être d'extrême droite, et du coup,
enfin,
c'est
Retailleau,
dramatique.
c'est un des ministres sur les 39. Mais
C'est
je reviens
numéro
à ce que
3 ou
vous
4 du
disiez, parce que
gouvernement.
vous n'avez pas prononcé son nom. Lorsque, manifestement, la candidature de Bernard Cazeneuve a été envisagée, et même avant celle de Barnier, pour être Premier ministre, vous auriez souhaité
Bien
que
sûr.
le nouveau Front populaire le soutienne.
Mais
Et...
au-delà du nouveau Front populaire, je suis sûr que Pierre Fournier pourra nous en dire
Non, mais
plus.
là, le
Mais
problème est venu manifestement de la gauche.
bien
C'est la
sûr,
gauche qui n'a pas voulu le
c'est venu
soutenir.
manifestement de la gauche. Et je leur en veux grandement. Enfin, excusez-moi, si on a vu Bernard Cazeneuve qui est reconnu au-delà des rangs de la gauche, chez les
Oui, mais
macronistes,
effectivement,
chez des gens de
même
droite,
des gens de droite
qui
auraient sans
disent
doute
Bernard
accepté.
Cazeneuve est un homme d'État, on n'est pas d'accord avec lui sur tout, mais on sait qu'on se rejoint sur l'essentiel. Eh bien, on aurait pu travailler. Et en plus de ça, on aurait pu avancer sur des sujets qui, quand même, sont très importants, comme ce qui a été stoppé net, le droit de mourir dans la dignité. Là, je ne sais pas ce qu'il en sera. avec le gouvernement Barnier.
Ça, je ne sais pas si ça va être relancé, effectivement.
Je ne sais pas si ça va être... Oui, alors Pierre Fournier pourra nous en dire plus, peut-être. Sur des sujets comme travailler avec les partenaires sociaux sur comment est-ce qu'on fait pour que le climat, qui quand même est un peu explosif, il faut le dire, eh bien, puisse un peu s'apaiser, hein, peut-être en lâchant du lest ici et là. Et aussi, il faut le dire, ça, Michel Barnier a dit qu'il était plutôt pour, on verra, taxer les plus grandes fortunes de ce pays. Je ne dis pas taxer à 100%, hein, comme LFI voudrait faire, mais les faire participer un petit peu plus, à hauteur de leurs moyens, pour que du coup ils puissent participer à combler ce déficit.
C'est un sujet sur lequel on va sans doute revenir dans les semaines qui viennent, mais même dans les semaines qui viennent lorsque le budget va être voté, parce que est-ce que oui ou non ça va être intégré dans le budget, une hausse des impôts pour certains citoyens et notamment les plus fortunés, à voir. Mais bon, ce que je retiens de votre intervention, c'est que vous voyez ce gouvernement comme, je reprends vos termes, le plus à droite de la 5e,
oui,
plus à droite que les gouvernements sous la présidence du général de Gaulle ou même celle de Georges Pompidou.
Mais le général de Gaulle avait des mesures sociales.
Ça, c'est autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas de mesures du tout. Bien sûr, mais là, on est un gouvernement entre
François Fillon et Marine Le Pen. Bon, au moment...
On verra.
Sur certaines personnalités, je précise.
Alors, oui, Pierre Fournier, vous, qu'est-ce que... On va dire que c'est votre camp, parce que Michel Barnier est LR. Mais enfin, il y a encore beaucoup de ministres issus des rangs macronistes. Alors, comment vous le trouvez, vous, ce gouvernement? Est-ce qu'il vous convient?
Alors, ce gouvernement...
Compte tenu de la situation.
Déjà, en fait, c'est un soulagement. On a enfin un gouvernement. On a eu le gouvernement le démissionnaire le plus long de la 5e République.
Ah oui, ça c'est sûr.
République.
Plus de 2 mois sans gouvernement.
L'histoire de la République.
Alors, il y a eu des raisons, parce qu'il y a les JO, parce que c'était l'été. C'est normal, on a dû attendre un petit peu. Mais voilà, ça a mis du temps à arriver. On a eu un Premier ministre qui a été nommé et enfin un gouvernement. Est-ce que je m'en satisfais aujourd'hui? J'aurais tendance à vous dire non de base, mais en fait, on n'a pas gagné l'élection, on n'a pas une majorité à l'Assemblée. En fait, c'est tout à fait normal que tous nos ministres ne soient pas issus de nos rangs, ils ne soient pas macronistes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai quand même été beaucoup déçu par la gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement a décidé de s'allier avec l'extrême gauche, avec la France insoumise. Et également une partie d'Europe Écologie et Vert que je considère de très radicale, et a refusé tout compromis avec la coalition Ensemble pour la République et même avec les LR. Ils ont dit notre programme avec notre programme que notre programme, et forcément en fait le président n'a pas nommé leur candidate, hein, Lucie Castet, dont on se souvient, ce qui est tout à fait normal. Le président est garant des institutions, il ne peut pas nommer une première ministre qui sera censurée la semaine d'après. De ce fait, il a beaucoup consulté, il a mis du temps. Il y a eu deux noms à la fin qui se sont un peu dont on a entendu parler. Il y a notamment eu Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas si j'aurais préféré Bernard Cazeneuve, mais je vous avoue, de mon côté un peu centre-gauche, je vous dirais que oui, Bernard Cazeneuve est un homme d'État qui a de l'expérience et qui a porté. Il avait Emmanuel Macron comme collègue ministre à l'époque. C'était un très bon ministre de l'Intérieur, c'était un très bon Premier ministre le temps. Il a eu un petit mandat de Premier ministre, mais il a été très bon Premier ministre à cette époque. J'aurais forcément préféré Bernard Cazeneuve, mais voilà. La gauche de gouvernement a décidé de le censurer. Hein. Le PS avait fait un communiqué pour expliquer qu'il ne soutiendrait pas un gouvernement de Bernard Cazeneuve. Le président de la République a dû en prendre compte et a décidé d'aller voir... Les LR, ils ont accepté de former un gouvernement avec nous. Ce que le président doit faire, en fait, c'est de nommer un Premier ministre, au final, qui ne sera pas censuré. Le seul, a priori, candidat qu'on avait à ce moment-là, ça avait été Michel Barnier. Aujourd'hui, on a Michel Barnier a proposé un gouvernement qui a été nommé. Le président de la République, a priori, n'apprécie pas forcément ce gouvernement, des infos qu'on peut lire dans la presse, mais il a nommé. Il a nommé parce que c'est sur proposition du Premier ministre, il a décidé de laisser le Premier ministre gouverner et de choisir ses ministres. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec un gouvernement avec beaucoup de ministres régaliens comme de Ensemble pour la République, mais également des ministres régaliens qui sont issus des LR. Bruno Retailleau, on peut en parler, il fait beaucoup de bruit, il parle beaucoup, mais il vient tout juste de commencer. Faut pas oublier que les députés LR ne sont que 40, ils ont une minorité à l'Assemblée, mais ils font partie de cette coalition, donc on va travailler avec eux. Mais ensuite, en fait, moi, je m'inquiète pas sur les passages des textes. À part le budget, mais le budget, je pense qu'on pourra en reparler. C'est un sujet majeur, où il faudra faire beaucoup, beaucoup de compromis. Mais oui, mais en fait, il en va de la du pays. En fait, c'est important, et je pense que à terme, les députés responsables n'iront pas voter une censure ou ne voteront pas forcément contre un budget qui aura été discuté. Mais si je peux vous rappeler, la précédente législature, c'était une des législatures où il n'y avait pas de majorité absolue, et pourtant on a fait passer énormément de textes. Et en fait, ce qu'on va avoir là sous cette législature, ça va être la même chose. On va avoir du texte par texte. Ça va passer, on va trouver des majorités sur chaque texte. Alors par exemple,
Vous imaginez que le nouveau Front populaire pourra voter des textes proposés par ce gouvernement?
peut-être. Mais honnêtement, ça va dépendre. Chaque ministre va déposer des textes, en fait. Et en fait, selon les textes qui seront déposés, ils vont être on va avoir des discussions en commission des lois, en commission, à l'Assemblée nationale. Ils évolueront les textes. Et à la fin, en fait, pour un gouvernement, s'il veut qu'il passe ce texte, ben, il doit faire avec l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas le choix. L'Assemblée nationale et le Sénat également. Donc, à terme, ils seront obligés. Lucas Duval, vous parliez de l'IVG, mais en fait, l'IVG, on a déjà une proposition de loi qui a été redéposée. C'est un des grands drames, je trouve, de cette dissolution, c'est que du coup, le projet de loi, ben, je sais plus si c'était un projet de loi ou une proposition de loi, mais a été jeté à la poubelle parce qu'une dissolution, ben, ça a détruit tous les travaux qui étaient en cours. Cette proposition de loi a été redéposée
Le
et.
droit de mourir dans la dignité.
Oui,
Oui,
tout
pas
à fait.
l'IVG,
Pardon, pas l'IVG, excusez-moi, le droit de mourir dans la dignité. Et elle devrait passer. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est pour cette proposition de loi, et à terme, elle sera votée. Et on en aura plein d'autres. Sur les sujets plus sociaux, on fera forcément avec la gauche. Sur les sujets plus sécuritaires ou autres, on fera forcément plus avec la droite. Mais ça va être du texte par texte. Et moi, je vous dis.
Je vous trouve bien optimiste, mais bon, pourquoi pas?
Mais je suis optimiste, mais en fait, moi, je me rappelle juste de la dernière législature. On a beaucoup de textes qui
Oui,
sont
parce que
passés.
les circonstances sont peut-être pas tout à fait les
Et
mêmes
puis,
quand
la
même.
dernière législature, on a beaucoup voté au 49-3.
Alors, ce qui a été
Oui.
voté au 49-3, c'est les budgets. Pourquoi? Parce qu'un
Et la
budget
réforme des retraites.
et la réforme des retraites qui était dans un budget, d'un projet de loi de finances de sécurité
Oui,
voilà, de la sécurité sociale.
c'est pas trop comme ça d'habitude, mais.
Ça se fait pas forcément comme ça, mais en fait, les députés LR à l'époque ont décidé de ne pas faire avancer le pays et ont décidé en fait de voter contre alors qu'ils ont travaillé sur le texte. Et de ce fait, on a fait passer ça en 49-3. Ils auraient pu nous censurer, ils n'ont pas voulu. Donc forcément, en fait, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais pourquoi il y a eu beaucoup de 49-3? Parce que on n'avait pas de majorité absolue, qu'on a eu une majorité relative sous la bienveillance, on va dire, des LR qui décidaient de ne pas nous censurer. C'est comme ça que fonctionne, on va
C'est
dire, à
encore
l'Assemblée
très
nationale.
relatif, 215 ou 220
Mais
avec
si on
LR.
avait, si les LR avaient fait partie du gouvernement, il y en aurait une majorité absolue. Le fait est qu'en fait, on avait
Non, mais là actuellement, 215
actuellement.
ou 220
Ah
avec
mais
LR?
je suis d'accord. Là aujourd'hui, en fait, il n'y a même pas de majorité du tout. Que ce soit à gauche, à droite, à extrême droite, il n'y a pas de majorité absolue. Et comme je vous ai dit, en fait, Michel Barnier, il n'est pas de mon camp. Je ne porte pas ses idées. Mais c'est le seul Premier ministre, a priori, qui est capable de tenir un gouvernement assez longtemps. Selon l'Assemblée nationale. Le président, en fait, il doit. C'est comme ça qu'il doit regarder l'Assemblée nationale. C'est, je dois nommer un Premier ministre. Et je vais pas nommer un Premier ministre parce que, soi-disant, il faut que ça soit le premier arrivé, machin, qu'on nomme. Non. Le président doit nommer un Premier ministre qui tienne la baraque, qui tienne le pays. On a un budget à voter. On a des concitoyens qui sont inquiets sur le budget, sur l'avenir du pays, sur l'endettement. On a un déficit assez énorme cette année. Donc, c'était pas du tout sérieux de nommer n'importe qui.
Est-ce que, comme Lucas Duval, vous trouvez que c'est un gouvernement très à droite?
Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. On va dire qu'on a eu des gouvernements beaucoup plus à droite. Hein. Je me rappelle du gouvernement Chirac, cohabitation,
86,
voilà,
celui-là?
86, je pense qu'il était très, très, très à droite, lui. Bien plus, aujourd'hui, non, on a quelques ministres LR très à droite, mais qui ont été nommés parce qu'ils ont été proposés par Michel Barnier. Et encore une fois, le président a nommé les ministres que Michel Barnier lui a proposés. Je ne porte pas ces ministres dans mon cœur. Et je ne les défendrai pas
Mais c'est qui les ministres très à droite à part Bruno Retailleau?
On a Bruno Retailleau, on a Madame Garnier, mais qui elle est à la consommation, je crois. Oui,
enfin, bah, elle a failli être aux familles.
Oui, mais elle n'a pas été aux familles, en fait, parce qu'il y a une. Parce que justement, on a fait du parlementarisme. En fait, on a des groupes de députés qui ont discuté sur le. Qui ont été reçus par le Premier ministre et qui ont discuté de ce gouvernement. Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre a d'abord présenté une première liste où il n'y avait presque que des LR. Forcément, les présidents de groupes, notamment du Bloc central, ont dit non. Et en fait, à terme, ils ont trouvé un compromis. Aujourd'hui, on a des ministres Renaissance, enfin EPR, on doit dire maintenant, pour le groupe, mais des ministres Renaissance à l'économie, à Bercy. On a toujours l'éducation nationale. On a le ministère des Armées, on a le Quai d'Orsay. Donc voilà, en fait, on garde quand même un gouvernement de centre, centre-gauche, enfin des ministres de centre, centre-gauche ou centre-droit, qui sont plutôt du Bloc central, et qui portent les valeurs macronistes qu'on a toujours défendues au sein du gouvernement. Et on a forcément des ministres parce que c'est une coalition, parce qu'on fait du parlementarisme, parce qu'on est dans un. Parce que le gouvernement ne doit pas être censuré, avec des ministres beaucoup plus à droite, que je n'apprécie pas forcément. Mais encore une fois, je le répète, la gauche n'a pas voulu gouverner. Michel Barnier a proposé à des ministres de gauche, à des personnalités de gauche de rentrer au gouvernement. Ils ont refusé. Nous n'avons qu'un ministre de la Justice, M. Migaud, qui est aujourd'hui un ancien socialiste, qui a accepté de rentrer au gouvernement. Et je m'en satisfais. Je pense que ce sera un très bon ministre de la Justice.
Oui. Alors, il y a une donnée dont on ne parle pas ici, c'est que le Rassemblement national a eu 11 millions de voix au premier tour des législatives, ce qui en fait de très loin le premier parti de France en nombre de voix. Et peut-être que ça a joué aussi dans certaines nominations, notamment celle de Bruno Retailleau à l'intérieur. Marie-Christine Monnoyer, on a déjà évoqué quelques noms ici. Il y en a qui étaient, il y a certains ministères, on attendait vraiment les noms justement de ceux qui allaient les occuper. Donc, on a Bruno Retailleau à l'intérieur. Antoine Armand à l'économie issu des rangs macronistes, comme l'a rappelé Pierre Fournier, à la justice Didier Migaud, qui à l'origine est un socialiste, et puis à l'éducation nationale, à Genetet, Anne Genetet, qui est macroniste aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces nominations bien précises? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont pouvoir travailler ensemble, notamment, je pense, à Bruno Retailleau et Didier Migaud, parce que normalement, l'intérieur et la justice devraient travailler main dans la main.
Si le Premier ministre a nommé aussi quelqu'un responsable de la cohésion gouvernementale, c'est qu'il a un peu peur que la cohésion soit pas si évidente que ça. Donc il va sans doute passer un certain temps à essayer de recadrer les uns et les autres, comme il l'a déjà fait depuis le...
Antoine Armand, il y a déjà eu droit, effectivement.
Voilà. Donc c'est ça qui va se passer. Mais au fond... Ce que moi j'ai trouvé très intéressant de ce qu'ont dit les deux jeunes gens que j'ai à ma droite et à ma gauche, le fait que l'on n'ait pas réussi à trouver, le fait que la gauche qui est pourtant sans être majoritaire est prédominante, on n'ait pas réussi à faire en sorte qu'on puisse mettre en avant quelqu'un qui était reconnu comme premier ministrable et qui vienne des rangs de la gauche, c'est ça la tristesse du jour. C'est ça la tristesse du jour, et c'est sans doute cela qui va peser sur les mois et les semaines qui viennent, parce qu'on sait que si le pauvre Premier ministre n'arrive pas à faire en sorte que ça passe avec pas trop de 49-3, eh bien, on n'a pas de solution à court terme, puisqu'on ne pourra pas trouver un autre nom accepté par la gauche. Et donc, je suis impressionnée par le fait que vos deux autres intervenants sont d'accord sur ce point et que au fond cette sensibilité de gauche qui s'est matérialisée par le vote qui a eu lieu au Parlement ne trouve pas de possibilité d'accès. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi ça? C'est vraiment lourd.
Bah, la réponse a déjà été donnée.
Moi, je pense quand même avoir une petite réponse. C'est qu'en fait, les chefs des partis de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure pensent à 2027. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Élysée.
Oui, mais enfin, on est en 2024.
Oui, je suis d'accord avec vous.
C'est terrible, ça, parce que ça veut dire que les responsables politiques du pays se moquent du tiers comme du quart de ce qui va se passer dans les 3 ans qui viennent. Or, il se trouve que nous, les citoyens de base, on a besoin des 3 ans qui viennent. Et on va pas nous faire attendre, comme ça, gentiment, on nous dirait, en nous disant, vous verrez, en 2027, on va trouver une solution. C'est extrêmement grave parce que c'est ce qui se passe sur une grande partie de la planète. Quand les hommes politiques ne sont pas capables de prendre les responsabilités vis-à-vis de leurs citoyens, le monde va extrêmement mal. C'est ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, c'est ce qui se passe au Liban avec Israël, c'est exactement la même position. Et ça, pour les citoyens français, c'est extrêmement inquiétant.
Mais ça vous étonne que nos politiques pensent surtout à 2027 et pas vraiment, comme le rappelait Lucas Duval tout à l'heure, à l'intérêt national.
J'espérais que ça
devrait être premier.
Non, je pense que...
Vous êtes étonné de ça ? Je ne suis pas certain que beaucoup de gens soient étonnés, moi.
Moi, je suis étonné parce que si c'est général vis-à-vis des hommes politiques, nous n'avons pas de solution démocrate. Et ça, c'est la fin de notre République.
Lucas Duval, alors je reviens à la question que je posais. Les nominations donc, de Bruno Retailleau à l'intérieur, Antoine Armand à l'économie et aux finances, Didier Migaud à la justice et Anne Genetet à l'éducation nationale, quel signe vous y voyez ? Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau et Didier Migaud vont pouvoir travailler ensemble ?
Oh ben on a déjà vu,
vous savez que les citoyens, grosse attente sur la sécurité.
Bien
sûr. Faire allusion à une affaire récente, terrible, qui vient encore de se passer, mais comme pour la plupart des Français, la justice ne fonctionne pas dans notre pays.
Non, mais je pense que la réponse a déjà un peu été donnée. C'est que quand Bruno Retailleau a fait sa sortie, Didier Migaud a lui-même fait une sortie en disant la justice, elle fonctionne quand même. Voilà, il est arrivé, il s'est pas laissé marcher dessus. À quoi est-ce qu'on va jouer ? On va jouer un concours d'ego pour ne pas utiliser une autre expression. Ça va juste pas être possible. Vous avez rappelé, et à juste titre, que le RN est arrivé très largement premier.
11 millions de voix au premier tour, au premier 7 tour. Pour l'ensemble du Nouveau Front Populaire.
Et 6,5, je crois, pour...
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Pour René...
Absolument, pour c'est ça, oui, c'est ça.
Les citoyens, eux, ont été responsables. Ils ont fait, en immense majorité, le Front Républicain. Et aujourd'hui...
Mais est-ce que ça fait un programme, ça ?
Mais non, ça ne fait pas de programme.
Parce que
mais justement, ça aurait dû engager les responsables politiques. Ils auraient dû y voir une leçon, en disant, les citoyens, eux, ils ont pris leurs responsabilités, ils se sont mobilisés aux urnes, comme on n'avait pas vu depuis, 10, 20, 30 ans.
C'est vrai que ça a beaucoup voté.
Et moi, j'ai été président de bureau à Toulouse. Ça n'a pas arrêté de la journée.
Oui.
Les gens sont tous... je crois que j'ai eu 70-75% de participation dans mon bureau, du jamais vu sur les dernières élections, même au présidentiel. Et malheureusement, Madame Monnoyer l'a dit, les responsables politiques n'ont pas été à la hauteur, et notamment les responsables politiques de gauche. Parce que il y avait effectivement cette espérance... Je ne suis pas d'accord avec le Nouveau Front Populaire, mais s'il pouvait y avoir une autre voie, elle était là. Si ce n'était pas Bernard Cazeneuve, il y avait le nom du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui était évoqué. C'est un petit peu son équivalent sur la droite modérée, on va dire. C'est lui aussi un homme d'État. C'est lui aussi quelqu'un qui est respecté et à droite, et au centre, et à gauche. Mais malheureusement, on se retrouve... Vous avez dit le nom de monsieur Armand, Arnaud
Antoine Armand.
Antoine Armand.
Oui, il va falloir apprendre son prénom.
Oui, c'est ça. Antoine Armand qui fait une sortie en disant, à juste titre, que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Et on apprend dans la presse que Michel Barnier a téléphoné à Marine Le Pen pour s'excuser. C'est problématique.
Quand je vous écoute, on dit depuis longtemps maintenant que le RN bloque le jeu à droite. Et je me rends compte que la France insoumise bloque le jeu à gauche.
Ah mais bien sûr.
Je dirais pas que c'est la France insoumise qui bloque le jeu à gauche, c'est Olivier Faure, c'est le PS qui bloque le jeu à gauche. Excusez-moi, mais
oui, mais parce qu'il ne sait pas quoi faire de la France insoumise.
Non, mais voilà. C'est, ça,
c'est la France insoumise qui est majoritaire
non, mais
à gauche.
De base, en fait,
c'est la même chose à droite.
C'était ouais. acté de, que ça soit le bloc central ou même l'extrême droite, que le moindre insoumis dans un gouvernement, le gouvernement serait censuré. Donc en fait, c'est pas eux qui bloquent, on va dire, à gauche. C'est le Parti Socialiste.
Après...
Parce que quoi qu'il arrive, même si la France Insoumise décidait de censurer un gouvernement du bloc central avec la gauche de gouvernement, en fait, elle serait pas censurée. Parce que ouais. mathématiquement, on aurait plus de députés. Alors... Et aujourd'hui, c'est Olivier Faure qui a refusé de participer au gouvernement ou de...
Oui, mais sauf qu'il avait noué des accords avec la France voilà. Insoumise après, pour présenter des candidatures du jour.
Je ne peux pas tout à fait vous laisser dire ça, et je ne me verrai pas souvent défendre la France Insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il était prêt à ce qu'il n'y ait aucun insoumis dans le gouvernement. Et ensuite, on a eu le Bloc central qui a dit « Ah oui, mais non, en fait, ce n'est pas les insoumis, c'est... » Ils ont inventé je ne sais pas quoi. Donc... oui, c'est la faute de la France insoumise. Oui, c'est la faute du Parti socialiste. Oui, c'est la faute des macronistes. Oui, c'est la faute des LR. Voilà, à un moment, tous sont fautifs. Et on ne me verra pas souvent défendre la France insoumise, alors, mais ils avaient proposé cette solution-là.
Non, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord. En fait, la coalition, même si elle a dit qu'il n'y aurait pas de France insoumise dans leur gouvernement, en fait, l'idée derrière, c'était d'avoir un gouvernement 100% NFP, avec donc ça aurait été des socialistes, des écologistes, des communistes, et surtout, en fait, où ils appliqueraient que leur programme. Moi, j'ai envie de vous dire, mais excusez-moi, mais le programme du NFP n'a pas gagné les élections. D'ailleurs, personne n'a gagné les élections.
Vous l'avez très bien dit, c'est l'Assemblée qui décide.
Voilà.
Ils auraient proposé leur programme, mais il y aurait pu y avoir des amendements. Et il y aurait eu des amendements.
Peut-être.
Et le
mais
programme en... n'aurait pas été
mais
appliqué.
Le problème, c'est que nos groupes de députés, moi, je suis d'accord là-dessus. Moi, je ne veux pas d'un gouvernement 100% NFP.
Moi non plus.
Ils auraient dû tendre la main éventuellement à nos présidents de groupe, Gabriel Attal ou à Horizon, etc., pour essayer de former un gouvernement et travailler ensemble. Ils ont refusé. Le président a dit, du coup, on va voir plus à droite. Bernard Cazeneuve a été proposé, il a été sondé. Et au final, même le Parti Socialiste n'a pas voulu de lui. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation. Si je peux revenir juste un instant sur Didier
Allez-y.
Migaud. Vous avez parlé de Didier Migaud.
Très important,
oui,
effectivement, très bien, la nomination
parce qu'on,
de Didier
Migaud. On s'éloigne un peu du sujet initial. Mais sur la justice, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Bruno Retailleux. Sous la mandature, sous le ministre Éric Dupond-Moretti, on a un budget de la justice qui a augmenté. On a un des plus gros budgets de la justice qu'on ait jamais eu. Il a permis de mettre en place, de généraliser ce qu'on appelle la cour criminelle, qui permet de remplacer la cour d'assises sur des procès, sur différents procès, notamment, c'est souvent des viols ou des agressions sexuelles, où ça nous permet d'aller plus rapidement sur ces procès-là. Donc on accélère au niveau de la justice. Et surtout, on a une justice qui condamne de plus en plus. Si vous regardez les prisons, elles sont presque pleines à craquer. C'est totalement faux de dire que la justice ne condamne pas. Ce qui est triste, c'est oui, on a un fait divers là, et pour le coup, il est dramatique. On a un suspect, alors j'ai bien un suspect, parce qu'il n'est pas encore condamné, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Mais on a un suspect qui était sous OQTF, qui a été condamné à 7 ans de prison pour viol. Et qui se retrouve en fait sur le territoire. Mais le problème, c'est que ça soit Bruno Retailleux, le RN ou Tartampion, même avec une OQTF, en fait, ils vont faire quoi si le Maroc ne veut pas les laisser rentrer ?
Mais là, il y avait l'Algérie qui s'est passé consulaire, c'était une question
voilà.
de jour. Hein. Là,
oui.
Pour le coup,
c'est
pas le Maroc qui bloquait.
C'est là où c'est un drame, c'est que c'est passé à 4 jours près. Mais, oui. mais en fait, ça reste un fait divers. Et même s'il est malheureux, il est dramatique, la justice fait son travail. Alors peut-être qu'on doit...
Mais il n'y a même pas 10% des OQTF qui sont traités. Vous trouvez que ça fonctionne ?
Mais encore une fois,
en fait... c'est forcément la faute de la justice. Il y a peut-être un manque de moyens, d'effectifs.
Mais écoutez, à moins que vous vouliez réouvrir le bagne en Guyane à côté de Cayenne, en fait, on n'a pas d'autre solution. Je veux dire, on a beaucoup de retards...
Je ne sais pas si les citoyens peuvent entendre ça.
Non, mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est
ça.
Soit, en fait, on a les pays avec qui on a des relations parfois un peu délicates.
Oui, oui.
Je pense à l'Algérie, qui refuse de récupérer leurs ressortissants.
Oui, ils ne les connaissent pas, souvent.
Voilà.
On ne les connaît pas, c'est
quoi. Voilà, je comprends. C'est pareil pour le Maroc. Le Maroc, ça va beaucoup mieux.
Ça passe mieux, quand même, avec le Maroc.
Voilà. Excusez-moi.
Non, mais à ce moment-là, on les laisse pas sortir
pas.
De prison.
Et oui, mais on a une justice en France, on a un état de droit. Ils sont condamnés à 7 ans, on les laisse, il reste 7 ans. Et encore,
il est sorti avant.
Voilà,
oui, mais
il est sorti
c'est
avant.
C'est la règle, c'est les bonnes
conduites.
Il a fait que 5 ans, bon, oui.
Je suis d'accord.
Effectivement.
Il aurait fait 7 ans, ça aurait été pareil.
Non, mais ça, c'est les règles. On sait qu'on fait ça pour donner aux détenus une occasion de pas trop mal se comporter, parce qu'il y a ceux qui les encadrent et qui les surveillent tous les jours. Et pour eux, c'est très compliqué lorsque vous avez affaire à des gens qui n'ont aucun espoir. Ça, on peut le comprendre. Mais après, il y a la question, c'est comment on les surveille, et surtout quand il y a une OQTF, comment on fait pour qu'elle soit appliquée rapidement. On ne peut pas rester, je pense, avec un taux de QTF effectué qui soit à moins de 10%.
C'est le malheur d'un peu tous les pays hein, qui ont ce genre de soucis. Ça a été pareil en Angleterre. En Angleterre, ils en sont, enfin, en Grande-Bretagne, ils étaient même à parler d'avoir un laissez-passer pour envoyer les OQTF dans un pays qui n'était pas le leur. Je crois que c'était le Libéria. Ça a été annulé par le gouvernement travailliste.
Un accord.
Mais je veux dire, vous imaginez si on en vient là? Enfin, moi, je ne peux pas accepter
surtout
ça.
Surtout un peu coincé aussi avec les règles au niveau européen. Marie-Christine Monnoyer, juste pour terminer très rapidement, vous lui donnez quelle durée de vie à ce gouvernement? Vous pensez qu'il va pouvoir durer?
On peut prendre les paris?
Oui, allez-y. Oui, je prends les paris.
Écoutez, moi, je voudrais bien qu'il dure plus de 6 mois. Hein. On a besoin qu'il dure. Et je crains trop le fait qu'il soit censuré et qu'on se retrouve dans une situation difficile. Ça veut dire que tous ceux qui sont engagés politiquement parlant, et puisque Lucas et Pierre sont dans ce cas-là, eh bien, ils ont une responsabilité vis-à-vis des groupes pour lesquels ils militent. Et c'est pas pour renvoyer la balle, mais au fond, c'est une vraie responsabilité. Et je souhaite profondément que les responsables politiques de tout niveau se disent qu'on ne casse pas la maison sans en prendre les conséquences et sans nous dire « vous verrez, dans 3 ans, ça ira mieux ». Donc si ça pouvait durer au moins 1 an, ça serait bien, parce que ça a des conséquences autres.
Si ça tenait qu'à Pierre et moi, ça marcherait. Malheureusement, il y a des choses au-dessus de nous.
Alors vous le voyez durer, ce gouvernement, Lucas Duval?
Le problème, c'est que, je ne sais pas, le RN doit sur le bouton atomique. Hein.
Oula.
Il a le droit de vie ou de mort sur ce gouvernement.
Ah bah, de toute façon, la majorité va dépendre ou du NFP ou du RN.
Mais c'est pas ça, en fait.
Les propositions
de c'est même pas ça. C'est qu'à partir du moment où le NFP déposera une motion de censure, ça sera au RN de dire « oui, on la vote, non, on la vote pas ». Ils ont le droit de vie ou de mort sur ce gouvernement.
Et peut-être que nous, les citoyens de base... On n'a pas un droit de vie ou de mort, mais on a le droit d'expression en
Absolument.
Disant on a besoin d'un gouvernement, arrêtez de mettre en cause pour des raisons qui seraient secondaires. Il peut y avoir des raisons fondamentales, mais pour des raisons secondaires, ce serait vraiment difficile à entendre.
On en revient à ce que disait Lucas Duval au début, l'intérêt supérieur du pays. Ça n'a pas trop intérêt à ce que le gouvernement change
Alors,
tous les deux mois.
Disons-le
à
nos responsables
la 4e République et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Vous, Pierre Fournier, vous avez l'air plutôt optimiste, vous.
C'est pas que je suis optimiste, c'est que oui, je crains que le gouvernement... Je crains tous les jours, en fait, que le gouvernement puisse sauter. Mais en fait, aujourd'hui, on a un Premier ministre bon, qui a un certain âge. Hein, d'ailleurs, c'est amusant parce que Gabriel Attal, le Premier ministre le plus jeune...
Il a passé par le plus âgé.
Voilà, par le plus âgé. Michel Barnier, ça va être son dernier engagement public. Après, Matignon, a priori, il ne devrait pas essayer une nouvelle mandature, une nouvelle élection. Donc pour lui, son objectif, c'est que le gouvernement tienne le plus longtemps. Non mais oui, je sais. Mais le gouvernement actuel se doit de réussir pour le bien des Français, pour le bien du pays. Et de ce fait, en fait, les ministres, je ne dirais pas qu'ils vont se tenir à KO, mais en fait, ils vont respecter le Parlement, ils vont respecter l'Assemblée. Et le fait est que, comme je vous l'ai dit, on va avoir du texte par texte, on va travailler, enfin, ils vont travailler avec notre Assemblée. On est loin un peu de l'époque où je dirais pas que je m'auto-flagelle, mais à une époque où nous on avait une majorité absolue, à l'époque de la République en marche, on avait même l'une des plus grosses majorités absolues.
Très large, oui.
On n'a pas assez joué avec, enfin on n'a pas assez discuté avec l'Assemblée nationale, on faisait passer un peu trop brutalement certains textes et ça n'a pas été bon. Et je le reconnais, ça n'a pas été bon. Aujourd'hui, depuis la précédente mandature, c'est différent. On fait beaucoup plus de texte par texte. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les ministres, ils vont se respecter. Enfin, je veux dire, là, il y a eu un peu d'échauffourée. Même si je défends qu'un monsieur Antoine Armand, et je le répète ici, hein, le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Il faut être clair là-dessus. Et ce sont mes convictions et c'est les convictions du parti. Nous, ce que nous voulons, c'est la réussite du gouvernement. Et tout le monde devrait se concentrer sur la réussite du gouvernement. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais que ça soit de la gauche ou de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, le NFP a dit d'office, on censurera le gouvernement quoi qu'il arrive. Donc c'est eux, en fait, ils laissent automatiquement le choix au RN de nous censurer ou pas. C'est leur choix. Ils décident donc de mettre le pivot de l'Assemblée nationale vers la droite. Nous, on va essayer de faire au mieux, on va être un peu l'aile gauche de ce gouvernement, et on essaiera de faire passer les textes sociaux, et on travaillera sûrement avec le NFP, avec les députés du PS, des écologistes, des insoumis, et même des communistes, sur de nombreux textes sur lesquels on est d'accord. Vous parliez de la fin de vie, mais on a d'autres nombreux textes qui devraient arriver, et ça passera.
Après, il n'est pas exclu que certains élus aujourd'hui qui font partie du nouveau Front populaire le quittent. Hein. Ce n'est pas impossible non plus que les députés du PS votent certaines lois et puis que le nouveau Front populaire explose, après tout.
Mais le nouveau Front populaire, au final, c'est qu'une coalition, ce n'est pas un groupe.
Oui,
déjà, ils ne sont pas un groupe.
Il ne faut pas leur dire ça, ils ne se présentent pas comme une coalition. Hein.
Ça dépend. Demandez à Mme Carole Delga, qui
n'est
pas loin, ce qu'elle en pense.
C'est vrai qu'effectivement, l'appréciation varie selon les appartenances. Bon, en tout cas, on attend maintenant le discours de politique générale de Michel Barnier devant le Parlement. Il est prévu mardi prochain, le 1er octobre. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler lors du numéro suivant de La Mêlée. Pour l'instant, petite pause dans cette émission, une courte virgule musicale d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La Mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec mes trois invités, Marie-Christine Monnoyer, Lucas Duval et Pierre Fournier. Michel Barnier n'a pas encore fait son discours de politique générale, donc, mais il était l'invité du journal de France 2 dimanche soir pour commenter la composition de son équipe gouvernementale et faire déjà plusieurs annonces. Et il a notamment annoncé qu'il souhaitait faire de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. On ne l'attendait pas forcément sur ce sujet alors qu'il s'exprimait pour la première fois depuis que la France a un nouveau gouvernement. Cela étant, trouvez-vous en effet que la santé mentale des Français et la prise en charge des troubles psychiatriques dans notre pays sont déficientes et préoccupantes au point qu'il faille en faire une des priorités du gouvernement Barnier et la grande cause nationale de 2025 ? Lucas Duval.
Vaste sujet. C'est, je pense, un sujet primordial pour le coup, la santé mentale. On l'a vu avec le Covid, où beaucoup de gens ont développé ou ont exacerbé des choses qu'ils avaient en eux et qui du coup se sont retrouvés à avoir besoin d'aide. Et il faut quand même rappeler, je ne sais pas s'il y a des auditeurs peut-être, que ce n'est pas grave d'avoir besoin d'aide, c'est même bien de pouvoir
savoir la demander.
Et qu'il ne faut pas que ce soit une honte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu honte, qui ont un peu peur d'aller demander de l'aide de ce côté-là. Mais voilà, de là en faire une grande cause, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont il faudrait faire une grande cause.
Oui, ça c'est sûr.
Mais en tout cas, c'est bien qu'au moins sur un sujet aussi important que celui-ci, il parle de faire une grande cause nationale. Après, il faut quand même reconnaître que dans les dernières années, et ça pour le coup, vous me connaissez à force, hein, je suis assez pragmatique, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont quand même fait quelque chose pour la santé mentale, notamment les remboursements, la prise en charge même, sans même besoin d'avancer, de 10 séances par an, je crois, chez des psys qui sont affiliés au système. Le fait, du coup, aussi, je crois que ça a été fait il n'y a pas longtemps, de même plus avoir besoin de passer par son médecin traitant pour faire ça, pour directement aller voir ses professionnels de santé directement. Bref, il y a des choses qui ont été faites. Il y a sûrement encore beaucoup à faire. Je pense notamment à la psychiatrie en milieu hospitalier qui est... comme beaucoup de choses en milieu hospitalier qui est en grande souffrance.
En sous-effectif.
En sous-effectif.
Manque de place.
Qui fait que du coup, malades et personnel se retrouvent en grande difficulté. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Tant mieux, s'il en fait une grande cause nationale.
Mais reste à voir à quoi ça peut ressembler, une grande cause nationale sur
ça.
Ce sujet.
Surtout qu'on en a connu...
très incantatoire.
Surtout qu'on en a connu d'autres, des grandes causes nationales.
Oui.
Pas que c'est
ça fait joli
années.
Sur le papier,
c'est
évidemment,
ça.
Mais bon,
c'est ça.
Maintenant, on va laisser Michel Barnier sans doute nous présenter un plan, j'imagine. Alors vous, Pierre Fournier, vous pensez que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en priorité, traiter rapidement la santé mentale des Français ?
Alors oui, je vais un peu redire quand même ce qu'a dit Lucas Duhal, parce qu'il a quand même défendu presque le bilan du précédent gouvernement. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis le Covid, on l'a remarqué, il y a eu enfin, il y a une explosion un peu de ce qu'on a pu voir, enfin, de la santé mentale. On a eu des gros problèmes,
Mais
on
il
a
y
eu
aurait
des grosses
13 millions de
dépressions.
Français, hein, qui ont des
Voilà.
problèmes, alors évidemment à des degrés divers, hein.
Voilà, on n'a pas tous, je pense qu'on a tous été confinés, enfin, on a tous été confinés ici, a priori. On l'a tous plus ou moins bien vécu, hein. Il y en a qui ont eu la chance d'être en maison, en jardin, retrouver leurs parents à la campagne. D'autres qui sont restés, notamment des étudiants, dans des chambres
Enfermé
d'étudiants
dans
enfermées.
des...
Ça a
Ouais.
été un drame pour beaucoup. C'était très problématique, ça a été, parce qu'ils ne pouvaient voir personne, parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils avaient peur aussi, excusez-moi, mais moi je me rappelle du Covid, j'avais peur, je tremblais. On disait, nos grands-parents, on pense à nos grands-parents, à nos proches, est-ce qu'ils vont être touchés par le
Le
Covid?
plus
Ce qui peut
terrible,
être...
ça a été aussi pour ceux qui ne pouvaient pas aller voir leurs parents qui étaient malades, ou
Exactement.
pour certains même en fin de vie. Donc oui,
Voilà,
c'est...
il y a eu un stress généralisé, et en fait, on s'est rendu compte que la santé mentale était un enjeu majeur. Alors on le savait déjà avant, mais il y a eu quand même une sorte de prise de conscience générale, que ce soit au gouvernement, mais même dans toute la classe politique. Pour dire que oui, aujourd'hui, la santé mentale est un enjeu, je pense, national. C'est très bien que Michel Barnier en fasse une grande cause nationale. J'attends quand même de voir ce qu'il propose et ce que proposera le ou la ministre de la Santé. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la nouvelle ministre de la Santé.
J'ai aussi oublié son nom, vous voyez, ça ne m'a pas
Voilà.
marqué non plus.
Il est vrai que nos précédents gouvernements ont quand même fait des choses, notamment auprès des étudiants, des jeunes, avec le chèque psy. L'histoire de l'ordonnance qui n'est plus obligatoire avec les médecins. Mais en fait, moi, je pense aussi à une chose importante, c'est que maintenant, au travail, je pense que notre autre débattrice pourra en parler, mais la santé mentale est davantage prise en compte maintenant au travail également. On a une prise en compte, le Covid a fait cela aussi, hein. On a maintenant des entreprises qui font davantage attention à leurs salariés, notamment sur leur environnement de travail, le télétravail. Il y a certaines entreprises qui mettent en place la semaine de 4 jours. Je pense que le gouvernement doit faire en sorte de le généraliser ou même d'aider les entreprises à aller vers ces modes de travail en fait, qui sont assez nouveaux parce qu'on a quand même une grosse partie de la France qui travaille dans des bureaux, même s'il y en a quand même une autre grosse partie qui ne travaille pas en bureau, qui travaille sur du manuel. Je pense qu'on doit évoluer vers ça et finalement la santé mentale, ça nous touche tous. Je pense qu'on a tous eu un coup de mou, on a tous eu des problèmes. Moi je cache pas, j'ai fait une dépression et je m'en suis sorti. Et il faut en parler quand on a besoin. Il y a des numéros pour ça et voilà.
Alors, la ministre de la Santé, c'est Geneviève Darrieussecq,
Ah tout à
députée
fait,
des Landes.
Darrieussecq, je me rappelle.
Marie-Christine Monnoyer, alors vous, est-ce que c'est une cause qu'il faut mettre vraiment celle en priorité en 2025, la santé mentale des Français?
Alors moi, je suis très contente qu'on ait mis ce sujet à la une des réflexions. Je suis très contente pour plusieurs raisons. Comme vient de le rappeler Pierre, il y a dans le mot sentimental, santé mentale,
Ah, c'est intéressant votre lapsus.
désolé, dans le mot santé mentale, il y a une idée qui est-ce que c'est une question transdisciplinaire, que c'est une question transversale.
Qui a des conséquences dans beaucoup de domaines, pas
Voilà.
seulement sur la santé d'ailleurs.
Et ça, c'est absolument fondamental parce que tous ceux qui sont affectés par des problématiques de santé mentale le sont, soit dans leur vie personnelle, familiale, etc., soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie relationnelle, soit dans leur vie physiologique parce que, bon. Et donc, le fait que ça soit transverse, eh bien, ça montre que il ne faut pas uniquement le focaliser sur tel ou tel point en faisant trop référence à l'histoire du Covid. Quand on regarde cette question, dans les textes que j'ai, parce que j'ai un peu travaillé cette question il y a quelques années, on s'aperçoit que déjà depuis 2010, ça fait quand même 15 ans ou presque, eh bien, on évoque la problématique de la santé mentale, en particulier au travail. Et quand des gens aussi connus et experts que quelqu'un comme Yves Clos, par exemple, eh bien, on en parlait, mais on n'allait pas plus loin. Et j'ai regardé en juin 2023, en novembre 2023, les spécialistes de santé sont montés au créneau en demandant à ce qu'il y ait que ça soit considéré comme une cause nationale. Et donc, il me semble que c'est pour cette raison que Michel Barnier a proposé ça comme étant, au fond, quelque chose sur lequel il est difficile de ne pas être d'accord. Quand on a des jeunes, des petits, des personnes âgées, des adultes en pleine force de l'âge, qui se retrouvent en burn-out, en refus de scolarité, en ne voulant plus manger ou en mangeant pour passer le temps, c'est toute la population, c'est toute la société qui est affectée. Et donc, si on fait un plan sur ce point-là, et qu'on met ensemble aussi bien des médecins, des enseignants, on va obtenir des résultats. On peut espérer obtenir des résultats. Et qui dira non ? Et c'est peut-être pour ça que Michel Barnier a choisi ce texte.
D'autant plus que c'est un investissement, s'il y a un plan qui est fait, qui permettra de faire sans doute des économies derrière.
Évidemment.
Notamment en soins et en remboursement évidemment. De soins. Alors, c'est ça aussi qu'il faut voir, faut tout mettre dans la balance.
Mais évidemment.
Ou en gain de productivité.
Alors au début, ça va certainement coûter un peu de sous, parce que quand les hôpitaux psychiatriques, j'ai été chercher les chiffres, il y a 30% de postes vacants dans les hôpitaux psychiatriques.
Oui, ben
alors je sais bien que plus personne ne veut être médecin, que plus personne ne veut être psychiatre, que plus personne ne veut être plombier, que plus personne ne veut être ceci. Mais il n'empêche que quand il manque un tiers des postes, et on sait bien que les postes, ça ne veut pas dire uniquement que ça suffisait. Ça veut dire que c'était les postes acquis. On le sait bien, bon, moi qui suis prof, on le sait bien dans l'éducation nationale. Donc, des chiffres aussi importants. En pédopsychiatrie, c'est 50% des postes qui sont vacants.
Oui.
C'est pas possible. C'est pas possible sans mettre en cause la vie des enfants et leur avenir.
Alors, ça veut dire qu'il va falloir investir, donc débloquer des fonds pour augmenter les effectifs, notamment dans notre système de santé. La partie psychiatrique.
Et c'est plus que ça, parce que quand on dit qu'il y a 30% des postes vacants, les postes, ils sont financés.
Oui, mais il y a
où est-ce qu'ils sont les hommes ?
Oui. Mais la question aussi, c'est que, bon, comme vous le savez, notre dette a complètement flambé, nos dépenses publiques, c'est une catastrophe, et on va sans doute le voir dans le prochain budget, il va falloir faire des économies. Oui. Alors, comment faire des économies, mais tout en investissant dans certains secteurs ? Il faut faire des choix. Il faut que ça soit absolument une priorité, vous pensez, Lucas Duval ?
Oui. Oui, c'est une des priorités qu'il faut avoir.
Et donc, il ne faut pas se poser de questions, il faudra économiser ailleurs.
Non, peut-être augmenter les recettes, on en a parlé tout à l'heure.
Oui, c'est augmenter les impôts.
Mais non, mais outre ça, il faut aussi...
Gérer mieux.
Et gérer mieux, oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut sûrement optimiser.
On l'a dit depuis longtemps qu'il faut mieux gérer en France, les dépenses publiques.
Mais après, il faut aussi savoir regarder en arrière et que ceux qui ont créé ce déficit et cette dette qui a explosé puissent aussi humblement dire que c'est aussi de leur faute. Je pense que ça serait bien aussi.
C'est à Pierre Fournier que vous vous adressez là.
Pas lui directement, mais en tout cas à Bruno Le Maire et compagnie.
Si je peux me permettre, en fait, la dette a augmenté, mais en fait, si on regarde par rapport au PIB de la France durant les années Macron, la dette, enfin le déficit n'a pas explosé en fait. On a quand même eu une croissance assez forte pendant des années. On a dû récupérer la dette de la SNCF qui nous a fait un peu exploser aussi notre dette, hein, parce qu'on l'a récupérée. Mais aujourd'hui, oui, on se retrouve face à un mur, on a un gros déficit.
Apparemment, le déficit public, ce serait même 6%, supérieur à 6%.
Hein. Voilà, c'est tout à fait, parce qu'on n'a pas une croissance qu'on espérait, et on se retrouve avec ce déficit. Aujourd'hui, on va voir, ça va être discuté à l'Assemblée, hein, de qu'est-ce qui va être décidé. Je pense qu'il y a des dépenses qu'on va pouvoir réduire. Je compte un peu sur M. Kasbarian qui est en charge de la fonction publique pour simplifier. Je pense qu'on a des postes, même des dépenses qui sont totalement inutiles au sein de l'État, qui sont un peu de la bureaucratie et qui, je pense, ne sont pas utiles ou sont très mal dépensées. On a ce problème-là. On a, depuis 7 ans, en fait, on essaie de limiter et de simplifier au maximum en fait, cette fonction publique. C'est très compliqué, hein, c'est tentaculaire la fonction publique. Et même,
en France, oui.
Voilà, mais que ce soit la fonction publique ou même nos dépenses. Donc je pense qu'il y a ce besoin-là, et c'est très bien que M. Kasbarian soit nommé ministre à ce poste. Je pense qu'il fera du très bon boulot là-dessus. Mais ensuite, il faudra forcément des recettes. Aujourd'hui, je ne suis pas pour l'augmentation des impôts sur le revenu.
Moi non plus.
Pour plusieurs raisons, en fait. Même En fait, augmenter les impôts fera réduire la croissance à terme et ne fera que continuer à augmenter le
Donc
déficit.
on continue à
Moi,
faire ruisseler, c'est ça?
non, moi je suis davantage pour réduire des niches fiscales, notamment chez des personnes qui sont aisées, mais ne pas aller chercher chez les actifs en fait. Les actifs, ceux qui font vivre le pays, ceux qui payent les retraites aujourd'hui. Et moi, je ne souhaite pas, mais même les actifs aisés, en fait, les actifs aisés, ils participent au pays, ils dépensent
Faites
leurs
attention parce
économies.
que ce sont beaucoup les retraités aisés qui votent pour votre camp.
Mais oui, mais
Je vous le
non,
dis.
mais je c'est pour ça qu'il veut pas toucher aux retraités.
C'est pas que je veux pas toucher aux retraités, moi je suis pour. Moi je pense qu'il y a des niches fiscales que les retraités ont qui n'ont pas besoin, qu'on peut réduire.
Marie-Christine Monnoyer, il nous reste une petite 30 secondes. Vous voyez les choses comment là concernant justement les impôts, les économies qu'on peut faire?
Si on ne joue pas sur tous les tableaux, on n'y arrivera pas. Il faut donc jouer sur les recettes et sur les dépenses. Et c'est trop facile. Et je suis désolée, mais les niches fiscales qui touchent là, c'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards.
C'est
Hein.
qu'on cherche 20 ou 30 milliards là. Oui.
Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc forcément, il faut sur certains points taxer les plus hauts revenus. On ne peut pas faire autrement. Et la différence finale. Je sais bien qu'on est le pays qui taxe le plus, etc., etc. C'est parfaitement exact, je connais les chiffres. Mais il n'empêche qu'il y a des moments dans la vie des pays où il est indispensable d'aller chercher l'argent où il existe, c'est-à-dire dans les plus hauts revenus. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher les niches fiscales, ce qui n'empêche pas de diminuer les dépenses, mais il faut aller les chercher partout. Hein. Et évidemment pas chez les smicards, et évidemment
Je ne
pas.
pense pas que ce sera fait, ça quand même,
Voilà.
ça serait très étonnant.
Ça n'irait pas. Donc il faut aller les chercher
Il n'y a
là où
rien
ils
à aller chercher,
existent.
donc.
Oui, en plus. C'est la fin du 163e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci infiniment à vous trois d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac qui était à la réalisation aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je remercie enfin ceux et celles qui nous ont écoutés fidèlement et attentivement, j'espère, tout au long de cette émission. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un excellent week-end.